RFI 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel et à Bamako. Nemo en peace au Mali, l'enquête se poursuit après l'assassinat de Boubou Tigal.
Le leader communautaire Peul, également à la tête du marché à bétail de Niamana. Des dizaines de personnes ont été interpellées, mais pour l'heure, aucune communication officielle. David Bachet fait le point sur les dernières avancées. On se penche ensuite sur le rôle du Fonds monétaire international en cas de dette cachée, après que l'institution a confirmé près de 7 milliards de dollars cachés au Sénégal de 2019 à 2024. Pour comprendre ce qui peut attendre Dakar, on revient sur deux précédents, au Mozambique et au Congo-Brazzaville. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture du procès en appel de l'opposant guinéen Alioba. Un mot de football également, 15 rencontres hier au programme pour les qualifications au prochain mondial. Vous entendrez Eric Schell, sélectionneur du Nigeria, tenu en échec. Et puis le dossier de ce journal et cette question, la justice sur le continent est-elle sexiste? Un grand oui, répondent plusieurs organisations de la société civile.
C'était mardi dernier au Mali, le 18 mars, Boubou Cissé était assassiné.
Et depuis, aucune communication officielle, ni des autorités de transition, ni de la justice, pas non plus de la police. Boubou Cissé, dit Boubou Tigal, ce leader communautaire Peul, également chef du plus important marché à bétail de Bamako, était très impliqué dans le dialogue intercommunautaire. Ce jour-là, alors qu'il regagnait son domicile, deux hommes armés lui ont tiré dessus à bout portant. Rien d'officiel pour l'heure donc, mais David Bachet, une enquête a été ouverte et un nom revient régulièrement.
Plusieurs dizaines de personnes auraient déjà été interpellées. De sources sécuritaires maliennes, certaines sont reparties libres, d'autres sont toujours en garde à vue. Chez les interlocuteurs joints par RFI, un nom revient sans cesse. Celui de Sékou Boly, homme d'affaires Peul, chargé de mission au ministère de la Réconciliation nationale et réputé proche de la sécurité d'État. De nombreuses sources communautaires tiennent pour acquis son implication dans plusieurs enlèvements de leaders Peul ces dernières années, y compris dans celui de Boubou Tigal, détenu plusieurs jours par la sécurité d'État en novembre dernier. Selon ses sources, Sékou Boly souhaitait que Boubou Tigal quitte la direction du marché à bétail de Niamana. Joint par RFI, Sékou Boly dément « C'est faux, je ne suis pas un assassin. Ces accusations sont montées de toutes pièces pour salir mon nom. Ceux qui m'accusent n'ont qu'à porter plainte. » À ce stade, Sékou Boly n'a pas été interrogé par les enquêteurs. D'autres pistes sont également évoquées, notamment celle d'un conflit foncier portant sur une parcelle du marché de Niamana. L'implication de Boubou Tigal dans la mise en place d'accords locaux impliquant le JNIM lié à Al-Qaïda dans le centre du pays lui a également valu des inimitiés. Plusieurs sources assurent enfin que des animaux volés par les djihadistes auraient été retrouvés sur le marché à bétail de Niamana.
Au Burkina Faso, l'association des journalistes dissoute hier par les autorités de transition. Selon Émile Zerbo, le ministre de l'administration territoriale, l'AJB n'est pas conforme aux nouvelles exigences légales de la loi qui date de 2015. La veille, ses présidents et vice-présidents, Gezouma Sanogo et Boukari Ouaba, étaient emmenés par des hommes en civil qui s'étaient présentés comme des agents du renseignement. La semaine dernière, ils avaient dénoncé des atteintes à la liberté d'expression et de la presse jamais égalées depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Volker Türk, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a condamné l'attaque du groupe État islamique au Grand Sahara contre une mosquée de l'ouest du Niger. C'était vendredi dernier, au moment de la grande prière. Bilan, 44 fidèles tués et des dizaines de blessés. Cette attaque, à un moment aussi important pour les musulmans, devrait être un signal d'alarme pour tous, dit-il. Volker Türk qui demande l'ouverture d'une enquête à Niamey. Au Sénégal, la mission du Fonds monétaire international est venue appuyer en début de semaine le rapport de la Cour des comptes sur les dépenses publiques de 2019 à 2024 sous la présidence de Macky Sall. Le FMI parle de près de 7 milliards de dollars de dettes cachées. Pour la suite, l'institution internationale dit espérer un nouveau programme d'aide en faveur du Sénégal le plus rapidement possible. Toujours est-il que ces prêts envers Dakar sont suspendus depuis septembre. Et Claire Fage, ce cas de figure n'est pas une première pour le FMI.
Le Fonds monétaire international doit s'assurer qu'un pays a les garanties suffisantes pour rembourser ses traites à l'échéance, ce qui permet à l'institution financière de mettre de nouvelles ressources à la disposition d'autres États. C'est pourquoi une série de sanctions est prévue en cas de fausse déclaration. En 2016, lors de la révélation des 2 milliards de dollars de dettes cachées du Mozambique, des prêts secrets accordés à des entreprises publiques par des banques privées et dont un demi-milliard de dollars est détourné, le FMI suspend son aide budgétaire aux autorités de Maputo. Les versements n'ont repris qu'en en 2024. Au Congo-Brazzaville, une dette cachée de quelque 3 milliards de dollars est mise au jour mi-2017. Il s'agit de préfinancements accompagnés de pots de vin accordés par des négociants en échange de livraison de pétrole. Ces prêts sont difficilement remboursables étant donné qu'entre-temps, le prix du baril s'est effondré. En avril 2018, le FMI conditionne son aide à une série de réformes pour plus de transparence dans la gestion des ressources publiques et pétrolières congolaises. La poursuite de ces réformes et la volatilité des cours du brut restent une source d'inquiétude exprimée l'an dernier par l'institution financière.
Claire Fage du service économie.
Volet judiciaire dans ce journal. En Guinée, voilà près de 3 mois qu'Alioubaa a été condamné à 2 ans de prison ferme.
C'était pour offense et diffamation envers le président de transition, Mamadi Doumbouya. Le procès en appel de l'opposant s'ouvre ce mercredi matin. Et de son côté, le modèle mouvement démocratique libéral, parti d'Alioubaa, n'a jamais changé de version, dénonçant, je cite, une instrumentalisation flagrante de la justice à des fins politiques. Comprenez, une stratégie pour évincer de potentiels concurrents de Mamadi Doumbouya dans la cour. Course à l'échéance présidentielle. Retour sur cette affaire avec Sidi Yonsane.
Avant son arrestation fin décembre, Alioubaa disait faire l'objet de menaces et de pressions de la part de la junte du CNRD. Son parti, le modèle, faisait même état d'un appel téléphonique du général Bala Samoura, commandant de la gendarmerie nationale, durant lequel il indiquait à l'opposant que ses déclarations dans l'une de ses nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux n'étaient pas du goût de la junte. Lors de son inculpation, c'est effectivement pour des accusations d'offense et diffamation envers le chef de l'État qu'Alioubaa est poursuivi, puis condamné à 2 ans de prison ferme. Son avocate, qui avait défini cette décision comme une forme de misère morale des magistrats guinéens, espère que la justice fera cette fois correctement son travail. Maître Alimatou Camara.
Si demain on a affaire à des magistrats qui sont suffisamment indépendants, Alioubaa pourra tranquillement rentrer chez lui à l'issue de cette procédure. Mais si c'est les mêmes pratiques et si on a affaire à des magistrats qui ont peur, c'est clair que c'est parti encore, ce sera la traversée du désert pour Monsieur Mamadou Alioubaa. On est dans un système où il n'y a plus de moralité, donc c'est vraiment compliqué.
Le mois dernier, la défense d'Alioubaa a porté plainte à la Cour de justice de la CEDEAO, constatant des violations manifestes des droits fondamentaux de l'opposant guinéen.
Sidi Yonsane.
Plusieurs organisations de la société civile togolaise parlent d'enlèvement, d'arrestation et de fortes restrictions.
Oui, à l'heure où se tient à Genève, en Suisse, la 28e session du comité des disparitions forcées des Nations Unies. Lomé en a ratifié la convention en juillet 2014 et remet donc régulièrement un rapport sur la mise en œuvre de ses engagements en la matière. Mais pour compléter cette version officielle, la société civile a donc joint son propre rapport au dossier. La suite est racontée par Magali Lagrange.
Plusieurs organisations, dont le CACID, s'intéressent à la situation dans la région des savanes, dans l'extrême nord, sous état d'urgence sécuritaire. Elles évoquent quelques cas d'enlèvement de civils par des groupes armés non identifiés entre 2022 et 2023, mais aussi des personnes arrêtées, notamment à Mandoury, dont les proches restent sans nouvelles pendant de longues périodes. Enfin, l'accès très restreint à la prison de Sotoubois, aménagée pour accueillir des personnes arrêtées dans le cadre d'enquêtes liées au terrorisme, rend les visites des proches ou organisations quasi impossibles. La société civile mentionne aussi les crises sociopolitiques que le Togo a traversées. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, disent-elles, a reçu une centaine de dépositions pour disparition forcée. Or, à ce jour, poursuivent-elles, il n'existe pas d'informations publiques sur les investigations dans ces dossiers. Les organisations togolaises soulignent également que certains cas d'interpellation s'apparentent à des disparitions forcées puisqu'elles ne respectent pas le cadre légal. L'Asvito évoque pour sa part un cas précis, celui d'un fonctionnaire de la gendarmerie de Kara, disparu en août 2020 pendant son service. Sa famille est jusqu'ici restée sans réponse.
Et sachez que, jointe par RFI, les autorités togolaises n'ont pour l'heure pas donné suite.
Du sport et du foot ce matin, le Nigeria n'y arrive toujours pas.
Les Super Eagles sont quatrièmes de leur groupe en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Hier soir, malgré l'ouverture du score de leur buteur Victor Osimhen, les Nigérians ont vu le Zimbabwe revenir au score. Au pire moment, à la dernière minute du temps réglementaire, forcément dur à encaisser pour Eric Schell, le sélectionneur malien du Nigeria.
Nous avons fait une excellente première mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Les 10 dernières minutes ont été plus difficiles. Les joueurs étaient un peu fatigués. Je suis très déçu pour eux et pour le pays. Je pense que nous pouvons encore viser la 2e place. En tout cas, l'équipe a progressé dans l'impact et avec le ballon, que ce soit en attaque rapide ou dans la construction. On méritait de gagner, mais c'est le football. Nous avons vu beaucoup de matchs comme celui-ci. Encore une fois, je pense que nous méritions mieux ce soir.
Eric Schell, le sélectionneur malien du Nigeria avec Ishaka Adegboye. D'autres résultats, pêle-mêle, la victoire du Sénégal face au Togo, 2-0. Défaite de la Guinée face à l'Ouganda sur le plus petit des scores. Du Bénin également, 2-0 face à l'Afrique du Sud. Le Maroc reste la seule équipe du continent invaincue dans ses qualifications. Succès des Lions de l'Atlas, 2-0 face à la Tanzanie. Le voisin algérien s'est imposé facilement 5-1 contre le Mozambique. Tous les résultats et plus de résultats avec Olivier Pron dans le journal des sports.
Rendez-vous dans une heure à peu près. Le dossier de ce journal à présent sur le caractère sexiste de la justice en Afrique.
C'est en tout cas ce que pointent du doigt 24 organisations de la société civile. Elles ont, il y a une quinzaine de jours, saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dénoncer un système qui punit plus durement les femmes que les hommes. Particulièrement celles qui sont condamnées à mort. Et derrière ces décisions, Christina Okello, une discrimination systémique.
Stéréotypes sexistes, violences, ignorées, pauvreté, autant de facteurs qui expliquent pourquoi la justice africaine est plus sévère envers les femmes. Pour Juliette Kaikai, avocate sierra-léonaise, le système judiciaire en Afrique ne tient pas compte des vulnérabilités des femmes accusées.
Beaucoup de femmes condamnées à mort ont un passé de violence basée sur le genre. Prenons le cas d'Aminata. Son ex-compagnon, qu'elle avait quitté après des abus répétés, l'a un jour frappée avec un tuyau en caoutchouc. Elle a attrapé ce qu'elle pouvait pour se défendre. C'était un couteau. Arrêtée, elle a découvert qu'elle l'avait mortellement blessée.
Mais au tribunal, le passé des violences d'Aminata n'a pas pesé lourd.
Le juge a estimé que pour invoquer la légitime défense, la riposte devait être proportionnée. Or, lui avait un tuyau, elle un couteau. Verdict, coupable.
Mais au-delà de la notion de proportionnalité, il y a aussi le poids des normes sociales.
Dans nos sociétés, une femme est censée être douce, maternelle, se comporter d'une certaine façon. Si elle sort de ce cadre, cela influence la manière dont la justice la perçoit. Prenons l'exemple d'une femme qui tue son partenaire. Personne ne cherche à comprendre ce qui l'a poussée à agir. Tout de suite, c'est « une femme ne fait pas ça ».
Dans ces conditions, difficile d'espérer un procès équitable. Et encore faut-il pouvoir se défendre. Faute de moyens, de nombreuses femmes n'ont pas accès à un avocat, ce qui aggrave les inégalités face à la justice.
Et cette coalition d'ONG compte aller encore plus loin, à savoir faire reconnaître la peine de mort comme incompatible avec la charte africaine, mais aussi exiger des États qu'ils adoptent des directives de condamnation tenant compte des violences de genre. L'enjeu est de taille, alors que sur le continent, beaucoup de ces femmes sont incarcérées pour des délits mineurs liés à la pauvreté. Sabrina Matani, avocate britanno-zambienne et fondatrice de l'ONG Women Beyond Walls, elle explique pourquoi cette décision pourrait être déterminante.
La Cour africaine a déjà joué un rôle clé en donnant des directives au gouvernement, notamment sur la dépénalisation des délits mineurs qui envoient trop souvent les femmes en prison à cause de la pauvreté. Cette décision a permis de reconnaître que des milliers de femmes sont incarcérées pour des infractions mineures, alors qu'elles n'auraient jamais dû se retrouver derrière les barreaux. Aujourd'hui, la Cour a une opportunité cruciale, examiner la peine de mort et voir si elle respecte vraiment la Charte africaine des droits de l'homme, notamment le droit à la vie et à la non-discrimination. Mais l'enjeu dépasse largement le continent. Aux États-Unis, plus de 40 femmes sont dans le couloir de la mort. Dans 34 pays, la peine capitale est encore appliquée pour des crimes liés à la drogue, alors que le droit international interdit la peine de mort pour des infractions non violentes. Ce dossier est donc essentiel, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier.
L'avocate britanno-zambienne Sabrina Matani, également fondatrice de l'ONG Women Beyond Walls. Elle était avec Christina Okello. C'est elle qui signe le dossier de ce journal.
Merci Nemo Ampis. À l'œuvre pour ce journal. On vous retrouve dans moins d'une heure, Nemo, pour le retour de l'info africaine.